Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au 37e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Michel Hellman, un bédiste qui explore différents genres avec une sensibilité rare, dont l'autobiographie, l'exploration formelle, le polar et le carnet de voyage. Michel Hellman, salut!
Bonjour!
Merci beaucoup d'accepter cette entrevue pour le balado. Comme je te disais, hors d'onde, ça fait très longtemps en fait que je veux te recevoir à l'émission. Il y a tout un concours de circonstances depuis la pandémie en fait, que c'est toujours remis tout ça. Donc enfin là, je t'ai. Donc très heureux que tu sois là.
Ben, merci pour l'invitation.
Écoute, t'es un auteur et un artiste assez versatile. Moi, je t'ai découvert à l'époque via ton petit colosse Iceberg, qui par la suite a été réédité à Loi de Cravant. Et donc là, on est dans tes débuts, en tout cas, on est dans l'expérimentation formelle. On est aussi dans le militantisme parce que ce petit album-là, qui est petit de format, mais qui est grand de cœur, est assez inusité dans le paysage de la bande dessinée québécoise. Alors moi, je serais curieux de t'entendre. Bon, parce que cet album-là relate en fait une expérience nucléaire dans le Grand Nord. Donc moi, je suis vraiment curieux de t'entendre par rapport à la démarche de ce premier livre que tu as publié autour de 2010, si je ne m'abuse. Et comment ça t'a mené à la bande dessinée?
Oui, alors c'est clair que j'ai deux facettes à mon travail, hein, la bande dessinée plus traditionnelle, avec un style plus humoristique, et cette envie d'expérimenter, surtout avec le papier découpé, ou même les sacs de poubelle découpés dans le cas du Petit Guide du Plan Nord. Mais pour ce premier livre, Iceberg, ce qui a été vraiment l'élément déclencheur, c'est ma rencontre avec les Inuits, parce que j'ai fait un premier voyage dans le Grand Nord. Invité par le magazine Géo Plein Air. Et donc, j'ai vu les paysages, évidemment, mais je me suis rendu compte, en découvrant la culture inuite, que je connaissais finalement très peu et sur leur tradition, sur leur histoire, mais aussi sur leur art. Alors, je me suis penché sur les techniques de leur gravure et le graphisme qui m'impressionnait beaucoup. Donc, j'ai décidé d'utiliser la technique du papier découpé pour faire un clin d'œil au graphisme de la gravure inuite, parce qu'évidemment, je ne voulais pas faire semblant que j'étais inuite en essayant de faire moi-même de la gravure. Je trouvais que l'idée aussi d'utiliser du papier ligné pour faire les découpages évoquait bien la fragilité du Nord, parce qu'on voit même dans le papier que j'ai découpé, que j'ai déchiré en fait les fibres. Hein, donc,
Oui, tout à fait.
ouais, voilà, donc ça représente. Graphiquement, il y a un hommage à la gravure inuite, mais aussi on voit dans la technique peut-être une évocation de cette fragilité, le fait que ce soit muet aussi et qu'on comprend l'histoire seulement à la fin, parce qu'au début c'est en Inuktitut et à la fin on comprend l'histoire lorsque c'est traduit en anglais et en français.
Ouais. C'est quand même assez audacieux comme proposition et le travail au niveau du papier, on sent toute la... Ben, comme tu dis, la fragilité, la délicatesse, mais donc on est dans une séquence narrative, mais en même temps, on est, je veux dire, pour moi, on est du côté de l'art, c'est-à-dire que chaque case, en fait, est une œuvre d'art en soi. Est-ce que j'imagine que ça fait, j'ai pas vérifié, mais j'imagine que ça fait l'objet d'une exposition quelconque, ce travail-là.
Oui, alors en France, il y avait une exposition, j'avais envoyé quelques planches, c'était dans le cadre de, je me souviens plus exactement le titre, mais en tout cas, c'était l'organisation Shifumi qui l'avait présenté. Et il faut quand même se rendre compte que là, dans le livre, c'est très bien présenté, mais il y avait beaucoup d'essais et erreurs pour quelque chose de délicat comme ça. Donc, j'ai fait l'assemblage après sur Photoshop, mais ce n'est pas des belles séquences comme ça sur les planches originales. Il y en a quelques-unes où ça fonctionnait bien, celles qui ont été vendues justement, malheureusement, mais sinon c'est parfois juste une case comme ça, toute seule sur un fond noir. Malheureusement, c'est le genre d'exemple où ça apparaît mieux sur la bande dessinée comme produit final que dans les originaux où c'est présenté sur les murs.
C'est vraiment impressionnant. Donc, tu as travaillé avant de passer dans la portion Photoshop et informatisé. Donc, tu as vraiment travaillé avec un exacto pour tailler tes pièces de feuilles lignées. Comment tu as procédé?
Oui, ben alors c'était un exacto. J'ai appris après à développer un peu cette partie-là d'expérimentation lorsque j'ai fait le petit guide du planeur, parce que là c'était sur des sacs poubelles. Donc là, je me suis rendu compte des petites techniques, là, changer la lame souvent, et aussi découper sur une vitre plutôt que découper sur une planche en mousse, comme on fait souvent, parce que ça glisse mieux en tout cas. Ben, donc là, c'était vraiment de laisser erreur. L'exacto pour faire vraiment les petits détails, mais comme je te disais, j'ai aimé aussi déchirer, hein. Donc là, en laissant la possibilité qu'il y ait une erreur qui se produit, mais en déchirant, là, on voyait les petites fibres, parce que c'est vraiment du papier cheap, 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 mais justement, le fait qu'il soit cheap, je trouvais que ça faisait un super effet lorsque c'était collé après sur le fond noir. Et après, avec le travail d'édition qu'on a refait avec Loi de Cravant, j'en ai profité pour rajouter quand même quelques planches,
En
quelques
tout
cartes.
cas, c'est un magnifique objet chez Loi de Cravant. Vraiment, au niveau de la reproduction des noirs, c'est fulgurant.
Oui, ben Benoît, l'éditeur de Benoît
Ouais.
Chaput, l'éditeur de Loi de Cravant, il fait vraiment un très beau travail d'édition et puis il a vraiment soigneusement fait en sorte qu'on voit tous les détails du travail complètement dessiné.
Alors, c'est assez inusité, Michel, d'amorcer sa carrière d'auteur de bande dessinée avec un album objet expérimental de cette nature-là. Parce que, comme je l'ai dit, on est dans un découpage narratif séquentiel. Bon, évidemment, c'est muet et on se passe de texte de toute manière parce que tout est là. Moi, j'avais. La première fois que je t'ai lu dans Le Petit Colosse, c'est fou parce que j'ai vécu une expérience où je lisais à la fois une bande dessinée et où j'avais vraiment l'impression d'être au musée, de visiter une exposition thématique. En fait, je pense que c'est, avec le petit guide du plan nord, je pense que c'est les deux seuls cas de figure où ça m'est arrivé. Donc, je trouve ça quand même assez audacieux comme début dans la bande dessinée, d'amorcer comme ça. Alors, lorsque tu travaillais sur Iceberg, est-ce que tu avais déjà amorcé le travail de ton premier album, disons plus classique chez Pawpaw, Myland?
Oui. Alors, je faisais un blog en parallèle, un blog sur lequel je mettais des anecdotes, des petits dessins, des croquis. Et ce qui était vraiment, c'était l'époque des blogs, hein. Je regardais ce qui se faisait ailleurs, mais le blog que je faisais moi, je l'avais fait en me disant que je m'adressais à des amis, à la famille en France. Donc, j'en parlais de choses spécifiques de Montréal. Mais petit à petit, il commençait à avoir de plus en plus de lecteurs de ce blog, et c'est dans les ateliers de Jimmy Beaulieu, ce qui donne au Cégep du Vieux-Montréal, que j'ai rencontré Luc Bossé, Sylviane, Vincent Giard, en tout cas, il y avait toute cette petite gang, et Luc commençait sa maison d'édition, Pow Pow, et il m'a proposé, il m'a dit, écoute, tes petits dessins de blog, là, ce serait cool, on les réunit ensemble, t'en fais d'autres, on trouve un fil conducteur, et on lit ça avec le thème du quartier Myland et c'est devenu la bande dessinée Myland. Et c'est vraiment dans ces ateliers que ben, le partage que j'ai pu faire avec ces autres auteurs sont tous continués dans la bande dessinée. Mais c'est aussi une manière, en suivant ces ateliers, que je me suis permis aussi de voir d'autres manières de penser. C'est Iceberg, c'est aussi venu à travers ces ateliers-là. Cette idée de se lancer dans l'expérimentation, de réaliser qu'il y a plusieurs manières de raconter une histoire à travers la bande dessinée. C'est pas nécessaire de se cantonner dans un seul style.
Oui, mais dans le cas de Iceberg et de Plan Nord, on est aussi donc tu l'ornes aussi du côté des beaux-arts, finalement. Et c'est ça qui est génial, c'est tout à coup, il y a une transmutation de l'œuvre. Et ça permet d'aller chercher des gens qui sont peut-être encore réticents au médium de la bande dessinée, parce que ça existe, hein? Même si elle est beaucoup moins snobée qu'avant, notamment par le milieu des beaux-arts. Mais je trouve ça justement intéressant parce que pour moi, c'est un album passerelle. Et en plus, c'est un album qui s'intéresse à la communauté inuite. Encore là, dans la bande dessinée québécoise, je veux dire, c'est très, 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 très récent, tout à coup, qu'elle s'intéresse à ce qui se passe ailleurs du sud et des grands centres urbains.
Oui, je trouve qu'il y a eu quand même un cheminement qui a été fait dans les dernières années, mais c'est vrai que
Ah
quand
oui.
j'ai sorti Iceberg et même Nunavik, on parlait encore très très peu de la réalité autochtone et encore plus de ce qui se passait dans le Grand Nord avec les Inuits. On a l'impression que c'est loin, c'est un autre monde et un sujet qu'on abordait, j'avais l'impression quand même très peu, mais là ça a changé depuis quelques années. Pour ce qui est du côté beaux-arts, si on peut dire, je pense que je me nourris sûrement des influences que j'ai eues lors de mes études. J'ai étudié en histoire de l'art. J'ai été aussi critique d'art pour Le Devoir, donc avec cette ouverture, mettons, à l'art contemporain, à cette idée. J'adore la bande dessinée, mais se rendre compte que l'art contemporain, les beaux-arts, ce n'est pas nécessairement un monde opposé à celui de la bande dessinée. Il y a une manière de faire un pont entre les deux disciplines.
Alors, on parlait de Myland, évidemment, un des tout premiers albums à paraître au jeune catalogue des éditions Paupar, album qui a connu un grand succès, tellement qu'en 2024, on attend toujours Mylène 2.
Et voilà.
Alors, ma question est la suivante, parce que évidemment, je pense que la première personne qui t'a posé cette question-là, c'est ton éditeur et il te la pose depuis longtemps.
C'est
C'est
clair.
d'ailleurs l'amorce dans Nunavik, là, c'est très, très drôle, mais est-ce qu'il y aura un Mylène 2? Et si oui, l'autre question, c'est quand?
Alors, là, j'ai eu la chance d'être accepté dans un programme, enfin une résidence à McGill, dans un centre de recherche interdisciplinaire sur des études montréalaises, pour travailler pendant un an sur une bande dessinée sur les quartiers de Montréal. Alors, ce sera non seulement à Mile End 2, mais à Montréal, tous les quartiers. Ça va être un projet, c'est un projet ambitieux, un projet qui va me prendre quand même pas mal de temps, mais là, j'ai accès à. Avec ce centre de recherche à l'expertise de chercheurs, différents chercheurs qui s'intéressent à Montréal, donc plusieurs points de vue, urbanistes, historiens, linguistes. Ça me donne aussi l'opportunité parce que le titre officiel, je suis professeur praticien, donc
Ah
ça a l'air
oui, quand même, ça en jette.
prestigieux, mais ça m'ouvre des portes. Alors,
OK.
je fais un travail de BDiste où je vais représenter à travers la bande dessinée la réalité des différents quartiers. En fait, j'ai l'impression que McGill m'a donné une occasion en or, hein, de à la fois utiliser le médium de la bande dessinée pour parler, hein, d'un sujet qui est quand même intéressant, les quartiers de Montréalais, mais aller au-delà du simple portrait léger, si on peut dire, et vraiment présenter un livre qui pourrait avoir beaucoup de substance. Hein, voilà, c'est tout simplement tout ce que je voulais dire.
Oui, donc, davantage stratifié. L'autre
Ouais.
différence fondamentale aussi, c'est que, comme tu l'expliquais plus tôt, cet album-là est né en quelque part sur Internet, donc avec un contact direct avec le lectorat, alors que là, pas du tout. C'est-à-dire que là, le livre, va finir par exister au regard des lectrices et lecteurs sous la forme d'un objet. Donc, il n'aura pas tout du long de sa conception, était partagé avec un public. Et ça aussi, j'imagine que c'est très différent.
Oui, en fait, c'est une bonne question ce que tu me poses là, en fait, parce que il y avait dans Myland une évolution, hein, et après dans la bande dessinée, on a décidé d'organiser ça avec Luc selon les saisons, pour faire un parallèle avec les transformations du quartier et les transformations qui se passaient dans ma propre vie. Avec ce projet que je suis en train de faire de McGill, j'ai décidé, même si je ne suis pas en train de le mettre sur un blog, j'ai décidé de documenter tous les jours le processus qui fait en sorte que je vais explorer les quartiers, je rencontre ces chercheurs, je rencontre des personnages emblématiques de chaque quartier, que ce soit des personnes impliquées dans la communauté, et je le documente à la manière d'un carnet de voyage. Après, je vais faire un tri. Okay, mais j'ai envie quand même de garder cette évolution dans le temps. J'ai pas envie de rassembler toutes les informations et après sortir une bande dessinée. J'aime beaucoup plus cette manière de travailler chronologique que je trouve. Je trouve c'est une manière d'engager le lecteur, hein, parce que lui, je l'emmène avec moi dans ce mandat-là, dès les premiers jours où j'arrive dans les bureaux jusqu'à ce que je me rends compte, ah bah tiens, cette maison qui a attiré mon attention. Je commence à connaître son histoire, avec aussi les faux départs, avec aussi enfin, toutes ces choses qui font qu'une bande dessinée carnet de voyage soit intéressante, de lier la petite histoire à la grande histoire, si on peut dire.
D'ailleurs, c'est intéressant, Michel, parce que avant ton arrivée, il n'y avait pas véritablement, je pense, au Québec, de tradition de carnet de voyage. C'est-à-dire que, bon, évidemment, on pense immédiatement à Guy Delisle. Bon, évidemment, Guy Delisle, il est québécois, mais en même temps, il habite à l'étranger depuis tellement longtemps. Mais donc, l'idée de publier un carnet de voyage chez un éditeur québécois, et c'est ce que tu as fait avec Nunavik en 2016 chez Paupar. Je me souviens qu'à l'époque, je m'étais dit enfin. Et enfin, parce que Nunavik, c'est un voyage de l'intérieur, et tu l'as dit tantôt. On connaît, somme toute, enfin, on connaît, somme toute, très peu de choses de notre Québec. Tant du point de vue géographique, sociopolitique, mais aussi du niveau historique. Et ce qui est particulier pour moi, en 2016, coup sur coup sont parus Nunavik, donc ton album, et Le retour de l'Iroquois de Louis Rémillard.
Ah oui.
Et Louis Rémillard qui parle donc, lui qui revient à un fait historique en 1644, et toi qui nous parles d'actualité. Et dans les deux cas, le constat, moi, comme lecteur que je me suis fait, c'est qu'on connaît très, très mal notre histoire et qu'on s'est, sans le vouloir, je pense, isolé du reste du Québec. Parce que quand on lit Nunavik, c'est un choc culturel. Et on le sent bien chez toi. Et comme c'est cathartique, ben évidemment, nous, comme lecteurs, on passe à travers tes yeux pour observer ce monde-là où, à un moment donné, effectivement, on a l'impression d'être sur la Lune. Parce que, puis on se dit, et pourtant, on est au Québec.
Ouais.
Évidemment, on ne peut pas prendre la voiture puis rouler sur l'autoroute et monter là-bas. Évidemment, le territoire est immense. Mais ceci dit, ces gens-là habitent la même terre que nous.
Oui.
Mais l'idée de cet album-là, est-ce que c'est une conséquence au petit guide du plan Nord que tu as publié en 2013 à Loi de Cravant?
Conséquence, je ne sais pas. En tout cas, c'est deux facettes de mon travail. Hein. Comme je disais au début, que ce
Ouais.
soit une bande dessinée plus expérimentale ou une bande dessinée qui utilise le même les codes traditionnels. Hein.
Oui,
Parce
parce que
que
dans ce cas-ci, dans le petit kit du plan Nord, là, les séquences sont réalisées avec des sacs que tu as récupérés dans la nature, c'est bien ça.
oui, bah pas dans la nature. Je suis allé les chercher dans les communautés inoues. Alors,
OK.
l'idée, c'était de faire un road trip, encore une fois, de garder la même idée que Iceberg. C'est une bande dessinée muette. Et là, le médium qui utilisait les sacs poubelles nous font réfléchir sur les images qui sont présentées. Alors, dans cette idée de road trip, il y a un Nord idéalisé qui est confronté à un Nord réel. Alors, la référence ici, c'est. Dans Iceberg, c'était une référence à la gravure inuite qui m'intéressait beaucoup. Là, la référence, c'est aux paysagistes canadiens. Cette tradition, les plus connus, c'est le groupe des sept qui
Ouais.
allait définir une identité nationale à travers l'art en représentant des grands paysages vierges hein, pour montrer cette idée du Canada, les grands espaces. Sauf que là, ces grands espaces, ceux de la côte nord, sont étaient, bah, le sont encore, étaient en train d'être transformées par les premières grandes étapes des grands chantiers du plan Nord qui avaient été annoncés par le gouvernement Charest, dont des barrages. Alors, je voulais, voilà, faire un espèce de road trip et utiliser les sacs poubelles parce qu'il y a dans cette idée des sacs poubelles, évidemment, un message environnemental, un message d'étouffement aussi, hein, les sacs poubelles, c'est la pollution, les sacs poubelles, c'est aussi c'est l'asphyxie, en tout cas, il y a vraiment cette idée-là, mais en même temps, faire ressortir les paysages à travers ça. Pour ce qui est de Nunavik, ce que je voulais faire, c'est garder le même personnage que je vais encore utiliser dans mon projet que je fais sur les quartiers montréalais, que je vais encore utiliser pour d'autres projets de bande dessinée, qui me représente, qui est mon avatar, et montrer ce personnage sortir du Mile End, le quartier devenu touristique, devenu le quartier de la mode, des restaurants, et aller à l'autre extrémité de ce côté. Voilà, il y a, mettons, un portrait d'un Montréal, peut-être, comment on pourrait dire, celui de la consommation à outrance, hein. Aller à l'extrémité dans ce qu'on pourrait vraiment qualifier du tiers-monde dans notre propre province, parce que c'est reculé, comme tu dis, il n'y a pas de route, mais c'est à l'extrémité nord du Québec, c'est chez nous, mais à la fois, on ne connaît rien. Alors ce personnage qui me représente, qui est particulièrement naïf, hein, je voulais exagérer cette naïveté, est confronté dans ce voyage avec ce qu'il voit, mais aussi avec les préjugés qu'il pourrait avoir par rapport à ces régions, qui sont des préjugés, je le sais, pour être partagés par le lecteur du Sud qui va voir ma bande dessinée. Hein, parce qu'on a beaucoup d'idées reçues quand même, beaucoup d'ignorance et beaucoup d'idées reçues par rapport aux Inuits et aux Premières Nations en général.
C'est fou parce que pour l'anecdote, lorsque j'étais adolescent, moi, je travaillais pour la chaîne de restauration rapide de McDonald's.
Ouais.
Et d'où je viens, à Valleyfield, on préparait à chaque mois, on préparait des boîtes de burgers sans condiments qu'on mettait au congélateur. Et c'était acheminé ça au Nunavut. Donc,
OK.
alors après, ces burgers-là étaient vendus dans les magasins généraux à fort prix, là. C'était très cher à l'époque, là. Et donc, et moi, c'est là, à 14 ans, que j'ai pris conscience qu'effectivement, et puis bon, c'est avant Internet en plus, donc c'est pas comme si à cette époque-là, ça n'existait pas, donc je ne pouvais pas googler. Mais c'était quand même absurde de penser que je préparais des burgers pour des gens à des milliers de kilomètres.
Ouais.
Dans la même province,
Ouais.
qui allait payer le prix, qui allait. Écoute, en 94, je pense que le burger coûtait là-bas 5 $. Ce qu'il faut savoir, c'est que le trio pour le client qui venait avec la frite et le breuvage coûtait même pas 5 $ à l'époque. Donc, en plus, c'était complètement insensé. Puis, dans ma tête de 14 ans, je me disais, mais les gens sont fous de payer ce prix-là pour une espèce de burger. En plus, pas de condiments. Mais qu'est-ce qu'ils mangent là-bas? Et j'avais discuté avec le camionneur qui, lui, avait travaillé là-bas. Puis c'est ça. Donc, il m'avait raconté. Et tout à coup, je m'étais dit, OK, il y a comme deux Québec. Il y a un Québec très, très lointain. Et c'est justement ce Québec-là que tu nous donnes à voir dans Nunavik, mais aussi évidemment, dans le petit guide du plan Nord, et ben, moins, mais plus dans Iceberg. Mais là où je veux en venir, c'est que pour moi, je sens l'auteur militant. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Nunavik, en te mettant en scène, pour moi, tu traverses le Rubicon parce que tu deviens à ton tour touriste là-bas. Et on te le fait bien sentir, ou en tout cas, tu le transmets bien ça dans l'album. Il y a une séquence avec une dame qui te dit, ben, en fait, tu contribues justement à polluer, tu contribues à justement, à cette espèce d'idée globale d'hypocrisie, alors que là, toi, tu es poussé par plein de bons sentiments, justement. Donc, il y a cette dualité-là dans l'album qui, à ma énième relecture, tout à coup, m'a vraiment sauté en plein visage. Cette espèce de dualité-là entre le militant, mais à quel prix on est militant? Donc, cet album-là, alors que tout le monde attend Mile End 2, tout arrive avec cet album-là en 2016. Album qui est super bien reçu, je veux dire, puis avec raison. En quoi cet album-là, qui est un peu l'aboutissement, ou en tout cas la suite logique de tes précédents travaux, en quoi cet album-là a transformé ta manière comme artiste d'aborder la bande dessinée?
Je me suis rendu compte du potentiel de la bande dessinée déjà, hein, parce que c'est vrai que ça a été bien reçu, ça a été beaucoup acheté dans les écoles, donc mis dans des programmes. Donc j'ai rencontré beaucoup d'étudiants, hein, qui étudiaient ça, donc c'était leur manière pour eux d'avoir cette introduction à cette réalité. Et pourtant, il en existe des livres, hein, sur le Nunavik,
Ouais.
sur le Nord, mais le fait que ce soit une bande dessinée, justement parce qu'il y a ce langage accessible, ce langage ludique permet de faire passer un message. Je me suis rendu compte aussi que ce n'était pas mon rôle à moi de présenter. J'ai aucune certitude, hein, on peut dire ça. Et je voulais le présenter ça dans mon personnage. Je me questionne, comme tu dis, je suis là. Avoir eu ces expériences dans le Grand Nord, ça m'avait profondément marqué. Je voulais en faire une bande dessinée, mais il faut parler ça de ce paradoxe d'être là, d'être le personnage qui veut témoigner de ce qu'il a vu, mais en même temps, est-ce qu'il est en train de faire le voyeur? Est-ce que dans ce portrait qu'il est en train de faire, il y a une forme de colonialisme aussi dans, alors, il y a toutes ces questions que je me pose, j'ai envie que le lecteur se le pose aussi. Hein. Je ne suis pas en train d'arriver avec des conclusions et je.
Ce que je trouve intéressant de l'album aussi, c'est que ça m'a. J'ai fait un parallèle avec les photographes de guerre. Par exemple, les photographes ou les journalistes de guerre sont là pour rapporter ce qui se passe sur le terrain, mais on ne peut pas demeurer insensible à ce qui se passe autour de nous. Et à un moment donné, la neutralité, ça n'existe pas. On est profondément humain. Donc, à un moment donné, ça finit par nous contaminer. Et c'est ça que je trouve beau dans ton album. Et je retrouve ça, moi, en lisant Joe Sacco, en quelque part. Cette espèce de dualité, là où le journaliste doit laisser la place aux militants et inversement, et comment marcher sur ce fil de fer. Sans jamais tomber. Moi, il y a une séquence, Michel, et c'est la séquence qui conclut Nunavik, que je trouve tellement puissante. Et pour moi, c'est ça, la bande dessinée. Et c'est la double page où on te voit à la toute fin, le dernier jour, juste avant de quitter puis de prendre l'avion pour revenir dans le sud. Il y a une horde de caribous. Hein? D'ailleurs, il y a des documentaristes qui se font chier, qui essaient de les attraper, qui ne les trouvent pas. Et alors que toi, tu ne les cherches pas du tout, la dernière chose que tu vois avant de sauter dans l'avion, c'est ça. Et à la page suivante, on te retrouve le même air ébahi en plein milieu d'une rue dans le Mile End, tout autant surpeuplé. Et quand on regarde la juxtaposition de ces deux pages-là, on se demande, qu'est-ce qui est le plus déroutant?
Exactement. Voilà, c'est ça, c'est au lecteur de se poser ces questions. Je suis content que tu la soulèves. J'aime bien cette fin aussi, cette double page. Voilà, ça le lecteur se retrouve et il se demande, voilà, où est-ce que je me situe par rapport à ces deux formes d'exotisme finalement.
Voilà, parce qu'au final, ce que je retire de cette lecture-là, c'est à quel point la Terre ne nous appartient pas au final et que on demeure, je pense, d'éternels nomades face à ça. C'est sûr que les choses ont changé. On a une certaine sédentarité, mais on cherche toujours finalement à s'enfuir de quelconque manière. Donc, il y a aussi cette dualité-là.
Ah ben c'est bien dit, j'aime ça. J'aime cette formule que tu as utilisée, oui, tout à fait.
Et tu as tellement excellé avec cet album-là qu'on se dit, bon, ben alors Michel Hellman est lancé maintenant, nous allons avoir des carnets de voyage, etc. Et pas du tout. Parce que ton projet suivant est aux éditions de La Pastèque, un roman, un polar, un roman policier scénarisé par André Marois, donc album qui s'intitule Débarqué. Donc, première collaboration avec un scénariste.
Oui.
Alors, c'est comment, Michel, pour la première fois de sa carrière, tout à coup de partager un travail, d'être au service d'un scénario en amont et d'aborder le genre aussi? Parce que là, tout à coup, tu nous sors complètement du précédent, des précédents travaux. Alors, c'était comment cette expérience-là?
Oui, ben je voulais sortir de ma zone de confort. C'est Fred à La Pastèque qui m'a écrit pour me proposer ce projet. J'ai lu le scénario d'André et je me suis dit, ah, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui me représente nécessairement. J'ai l'impression que moi, je fais plus du travail de l'autofiction, style beaucoup plus humoristique dans mes bandes dessinées traditionnelles ou alors vraiment dans l'expérimental. Mais je me suis dit justement que ce serait bien hein, d'essayer autre chose. Et aussi, j'ai trouvé que l'histoire d'André, déjà, c'est un super scénariste. Hein. Ça, c'est clair.
Oui.
Il y a une bonne
Oui.
chose à apprendre de travailler avec un scénariste, c'est comment une histoire bien organisée. Parce que moi, ce n'est pas du tout comme ça. Lorsque je fais mes bandes dessinées, ça va dans tous les sens. Il y a une arborescence. Puis ça finit par se faire un album, là. Mais là, c'est vraiment une histoire bien montée avec toutes les règles d'un bon scénario. Et je trouvais que c'était une histoire courageuse aussi parce que il y a. Cette manière de parler de notre rapport à la différence, et dans ce cas-là, les personnes handicapées, c'est une histoire très noire, mais en fait, le lecteur est confronté avec ses propres réactions par rapport à
Ah oui.
comment je vis, moi aussi, dans ma vie quotidienne, quelles sont mes relations que j'ai avec les personnes handicapées. Donc, je trouve que c'était une histoire très forte. Hein, qui méritait d'être illustré.
Et une finale, et sans vouloir divulgâcher quoi que ce soit, moi, c'est un album qui m'a un peu broyé le cœur, là. Et ça, c'est... Et tu le dis, André Marois, c'est un excellent romancier. C'est un
Oui.
gars qui maîtrise tellement les codes du genre. Mais au final, Michel, la différence, c'est quand même une thématique qui est au cœur de ton travail d'auteur de bande dessinée. Donc, pour moi, même si le genre est différent, même si la structure est différente, parce que tu as travaillé avec un scénariste et que c'est construit... On n'est plus du côté de l'arborescence, on est vraiment du côté de la construction parce que il faut que ce soit ficelé, là. C'est de la mécanique, c'est de l'horlogerie. Mais au final, dans ton œuvre, Michel, il est question de ça, du rapport à la différence
Oui.
et du rapport à l'autre et d'aller à la rencontre de l'autre ou de décider justement de ne pas s'ouvrir à l'autre.
Tout à fait, vraiment. Alors, mais exactement comme tu dis, j'ai l'impression. À première vue, on dirait que c'est quelque chose de complètement différent, mais c'est lié à ma démarche au sens plus large et à mon intérêt d'utiliser le pouvoir de la bande dessinée pour pouvoir parler de cet autre.
Et justement, de passer de l'autofiction à la fiction, évidemment, c'est quand même différent dans ta pratique. En quoi ça a pu représenter un défi pour toi, justement? Est-ce qu'un auteur, OK, je vais te poser la question autrement, est-ce qu'un auteur se dévoile davantage dans la fiction que dans l'autofiction?
Ah, bonne question. Bonne question. Il se dévoile de toute façon. Il va se dévoiler de manière différente. C'est vrai que dans l'autofiction, il y a toujours peut-être quelque chose qui me freine. C'est cette peur peut-être parce que je vais représenter des gens que je connais, cette peur de
Oui.
heurter, hein, cette peur de blesser les gens. Alors, il y a une liberté lorsqu'on rentre dans la fiction, mais c'est sûr que même si c'est la fiction et même si c'est une histoire qui a été racontée, qui a été inventée par un scénariste, il y a même dans le travail de l'illustrateur une part de soi qui va ressortir et qu'on ne peut pas contrôler, évidemment, et ça c'est au lecteur de voir alors portrait il va se faire sur l'auteur, quel portrait va se faire sur l'illustrateur dans une histoire comme ça.
Il y a aussi l'idée quand même, et la représentativité de la différence, c'est un enjeu qui est quand même relativement récent. On ne se posait pas tant la question il y a 10-15 ans, mais là,
Non,
tout à
peut-être.
coup, tout à coup, c'est devenu un enjeu de société, heureusement d'ailleurs.
Oui. Ben, on se pose les bonnes questions, tant mieux. Il ne faut pas que ça aille dans l'autre extrême où ça freine le travail des créateurs, justement, parce qu'ils s'auto-censurent avec cette idée que ah, peut-être je suis en train d'aller sur la mauvaise voie. Donc, du moment qu'on se pose les bonnes questions, je trouve que le débat a certainement fait progresser les choses dans le bon sens. Après, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême qui est de se censurer, voire aseptiser son travail de peur de voilà,
C'est
choses.
intéressant aussi, Michel, parce que l'année précédente ou quelques mois à peine plus tôt paraissait Le petit astronaute de Jean-Paul Hyde, où il
Oui,
est
oui.
évidemment question d'un enfant lourdement handicapé et la thématique de la différence est abordée dans une toute autre tonalité.
Oui, absolument.
Mais je trouve ça intéressant, moi, qu'on aborde la différence dans le spectre du genre policier.
Oui.
Parce que pour moi, ça valide l'idée qu'on peut aborder la différence autrement qu'en la décriant ou en tentant de sensibiliser les gens.
Oui, ou en la rendant complètement invisible aussi, parce que
Oui.
Jean-Paul, il m'avait encouragé à prendre ce scénario et à le dessiner. Il m'a dit non, non, c'est une histoire qu'il faut raconter. Et c'est vraiment Jean-Paul qui m'a, en me donnant, en me faisant réaliser l'importance de raconter ce genre d'histoire, c'est lui qui m'a permis de me lancer dans ce projet-là.
Et c'était, je pense qu'il n'y avait personne de mieux placé
Absolument.
que Jean-Paul pour t'inciter, pour t'inviter à poursuivre cette réflexion-là et à plonger dans le projet. Parce que c'est vrai que tout à coup, je considère que votre album Débarqué contribue non seulement à la normalisation de la différence, mais c'est que on peut maintenant l'intégrer dans une fiction sans que ce soit une gimmick, sans que ce soit... Et tout à coup, qu'on ne se pose plus la question. Moi, mon travail, c'est de me poser la question quand je le lis, c'est normal. Mais ce que je souhaite, en fait, c'est que les lectrices et les lecteurs qui lisent Débarqué, eux, ils ont lu, et ils ont eu un beau road trip, et c'est le cas de le dire. Donc, mais qui ne se posent pas, c'est... qu'on perde le réflexe de poser cette question-là, parce que ça voudra dire qu'on aura réussi justement à passer par-dessus cet écueil-là. Puis en plus, le polar, hein, c'est un genre qui est très populaire auprès du lectorat. D'ailleurs, souvent, les gens, leur lecture d'été, quand ils partent en vacances, c'est très, très rare qu'ils partent avec une encyclopédie. Soit ils partent généralement avec une biographie d'un personnage historique quelconque ou un polar. Souvent, les gens disent, ah, un bon polar, là, je me mets la tête à off. En fait, je trouve ça un peu étrange parce que pour moi, je trouve ça très impliquant, lire un polar. Mais justement, j'imagine que Débarqué t'a permis aussi de joindre un nouveau public, ou en tout cas un lectorat qui ne connaissait pas forcément
Hein, c'est possible,
de
ouais.
tes précédents travaux. Et ça aussi, c'est intéressant quand on navigue, j'imagine, dans différents univers, quand on prend le risque, comme tu as fait, de sortir de ton petit carré de sable et de te dire, non, non, je vais aller vers autre chose. Ça te permet aussi d'aller à la rencontre d'autres lecteurs. Est-ce que tu as eu des retours en ce sens-là, de lectrices et de lecteurs?
C'est vraiment dans les salons du livre où les gens viennent me voir. Est-ce que c'est des gens qui connaissaient pas mon autre travail? C'est possible, hein, mais j'ai pas vraiment eu un exemple concret de quelqu'un qui m'a découvert à travers Débarqué qui connaissait pas mon autre travail. Mais je suis persuadé que ça a dû se faire. C'est clair. C'est deux genres de lecteurs possibles. Et c'est sûr que Iceberg ou le petit guide du plan Nord, c'est aussi une autre catégorie. Donc, c'est vrai que
Oui. Oui, mais ce qui est formidable, c'est que tout ça coexiste, tout ça fait partie d'un tout cohérent. Quand on te
Oui.
lit, il n'y a pas de. Même si tu passes d'un genre à l'autre, pour moi, il y a une telle cohérence que tout ça, au final, ce sont différentes facettes d'un même créateur. Ben d'ailleurs, la fiction, et tu l'as embrassée avec beaucoup de talent, est-ce que tu as d'autres envies par rapport à la fiction, justement? Là, évidemment, tu travailles sur ton gros projet montréalais, mais est-ce que par la suite, tu serais tenté à nouveau de collaborer avec une scénariste ou un scénariste et de retourner explorer davantage le filon de la fiction?
Oui, je pense que oui. J'apprécie l'expérience. Là, c'est sûr que je voulais me concentrer sur mon propre projet, revenir sur ma démarche habituelle, mais c'est une autre manière, hein, de y a l'histoire du scénariste, et après, c'est à nous de penser au découpage, de penser au personnage. Donc, c'est une autre manière de penser, c'est une autre manière de créer que j'ai trouvée inspirante. Alors, oui, définitivement, il n'y a aucun projet en ce moment. Sur les cartons, mais je suis tout à fait ouvert à reproduire cette expérience.
Et j'imagine que d'avoir aussi travaillé avec un scénariste et d'avoir travaillé un genre que tu n'avais pas exploré à ce jour, j'imagine que ça contribue à teinter ton travail actuel. Il y a sûrement des acquis ou il y a des choses que tu as appris qui
Oui.
forcément vont se retrouver par la suite dans ton travail.
Ah, absolument. Oui, ça c'est sûr. Déjà, regardez comment c'est un scénario qui est bien écrit là, c'est sûr que ça va inspirer mon travail. Mais oui, il y a définitivement tout ça, ça se nourrit, hein. Toutes ces différentes facettes de mon travail, comme tu dis, qui font un tout, mais tout ça, ça nourrit, chaque pratique vient nourrir l'autre, même si ça peut sembler des pratiques opposées, ça finit par. Voilà, ça finit par c'est comme un champ là où il y a différents légumes et tout ça là, ça vient aider les uns les autres là plutôt que faire une
Ouais.
monoculture. Hein.
C'est une belle analogie, ça. Est-ce que tu ressens encore l'appel du Grand Nord comme créateur?
Oui. Alors là, le projet, là il y a le grand projet sur Montréal avec le CREM à McGill. J'ai dû mettre de côté une autre bande dessinée qui est quand même bien entamée, que je prépare aussi pour Papa avec mon personnage ours sur le canot camping. Alors, aller au-delà du canot camping comme simple loisir, donc c'est évidemment une exploration des grands territoires du Nord. Il y a le côté autobiographique, autofiction, parce que je parle de mes expériences, j'en fais depuis longtemps et là. Je parle de mes expériences avec mes deux garçons, on part régulièrement en canoë. Donc,
Oui.
parler d'expérience de jeune père avec ses enfants, mais aller au-delà, parler du canot comme symbole lié à l'identité nationale, symbole autochtone, très important. Donc vraiment, et puis parler aussi de l'histoire du canot. Donc, encore tous ces sujets qui m'intéressent, fait dans le même style que My Land in Nunavik.
Sais, je te parlais de Louis Rémillard un peu plus tôt durant l'entrevue, mais Louis Rémillard. Il faudrait vraiment que vous ayez faire du canot ensemble
C'est clair.
parce que
Et
lui
j'adore son
aussi.
style, j'adore son
Ouais.
style, sa bande dessinée muette là où on voit juste la voiture qui s'enfonce dans le nord avec le canoë sur le toit et puis passe à travers différents paysages. Je trouve ça absolument
Oui,
génial.
voyage en zone d'exploration.
Voilà,
Ouais.
exactement.
Ben, je trouve qu'il y a vraiment une parenté entre vos œuvres respectives. Et je pense que ce qui les lie, c'est l'amour et le respect, la curiosité. Et ça fait un bien fou de vous lire en ce sens parce que ça nous c'est un rappel à l'ordre. Bon, tu as de jeunes enfants, j'ai deux filles qui sont maintenant adultes. Moi, je me souviens quand j'allais aux rencontres de parents. À la petite école, le cours d'histoire, quand j'ai mis le nez dans, je trouvais que c'était d'une aberration abyssale. Et je parlais au professeur d'histoire, mais je dis, mais c'est d'une connerie monumentale. Puis bon, évidemment, il y a tout l'aspect politique qui est au pouvoir. À chaque fois, on révise l'histoire, on révise les bouquins, tout ça, mais c'est complètement débile. On connaît rien. On se ferme, non seulement on se ferme les yeux, mais on se ferme l'esprit. Il n'y a pas de curiosité. Il n'y a pas d'envie vers l'autre. C'est comme si on vivait en vase clos. Enfin, on vit dans le déni. Et ce n'est pas que, je pense que ce n'est pas que les gouvernements qui sont responsables de ça. Je pense que ça part d'abord de nous. Et quand je te lis Michel, quand je lis Louis Rémillard, c'est ça. C'est un rappel à l'ordre. Nunavik, c'est une claque en plein visage. Parce que tout le long, on se dit, mais il parle de nous. C'est nous, ça. C'est les rivières qui coulent dans nos veines. C'est nous, c'est notre identité. Comment se fait-il qu'on vit au-delà de la coupure géographique parce que c'est très loin? En 2024, c'est plus une raison.
Oui, absolument. Et c'est s'il y a une manière d'utiliser la bande dessinée pour stimuler cette curiosité, je trouve que c'est fantastique. C'est vraiment le pouvoir de ce médium quand on y pense, parce que ça ne prend pas énormément de moyens pour créer une bande dessinée. Après, il faut trouver une manière de la diffuser, mais là, il y a l'Internet. Et c'est les possibilités, hein, les sujets qu'on peut aborder par la bande dessinée sont... Il y en a plein, c'est en tout cas des possibilités graphique, les sujets qu'on peut aborder, et puis une manière de stimuler la curiosité chez les autres. Je trouve que c'est vraiment le côté le plus important de ce travail.
Est-ce qu'on pourrait te revoir aussi loger à nouveau du côté de l'expérimentation graphique, comme ce fut le cas pour Iceberg et le petit guide du plan Nord? Parce que en relisant ces albums-là, il y a encore là une puissance d'évocation telle que moi, comme lecteur, je me dis, ben, j'en veux d'autres. Et nécessairement, je te pose la question, mais je me doute bien de la réponse. J'imagine que tu le portes encore en toi, ça, cette envie-là d'aller de ce côté-là aussi.
Oui, absolument. Je travaille beaucoup avec les carnets, hein, donc je fais des croquis et tout. Je me promène dans Montréal en ce moment, beaucoup dans les quartiers avec ce projet de McGill. Je dessine, mais il y a dans ces carnets une manière de représenter. J'utilise les carnets pour représenter ce que je vois, mais il y a toujours des expérimentations. Ça fait partie de ma démarche. Alors, il y en a beaucoup, ça reste pour moi. Et après, petit à petit, est-ce qu'il y a un déclic qui va se faire? Est-ce qu'il y a une possibilité pour continuer quelque chose, en faire un album, mais je vois même quand je regarde cette collection de dessins que je fais, qu'il y a une part dessin d'observation et il y a toujours de l'expérimentation, que ce soit des papiers que je trouve par terre ou que je vois un médium qui m'intéresse, j'essaie des choses différentes. Ça fait toujours partie de ma démarche.
Et c'est intéressant parce que, bon, tu as suivi l'atelier de Jimmy Beaulieu au Cégep du Vieux-Montréal. En fait, c'est à se demander qui ne l'a pas suivi. Mais Jimmy Beaulieu encourage beaucoup cette idée de la pratique plurielle, d'expérimenter avec les différents outils par rapport à sa pratique de bande dessinée, d'essayer des nouveaux outils tout à coup parce que ça change, ça impacte la manière de travailler. Donc, toi, le carnet, c'est au cœur depuis toujours, en fait, de ta pratique.
Alors, on le dit, hein, dans chaque prof de bande dessinée, chaque livre qu'on va prendre sur la bande dessinée ou sur l'illustration, l'art en général, toujours, ou l'écriture, toujours se promener avec un carnet, toujours un carnet, un stylo, toujours avoir un moyen de noter ses observations, de dessiner ce qu'on voit, si on a une idée, de ne pas la laisser juste partir. Et après, ça devient plus facile aussi. Il ne faut pas que le carnet, ce soit quelque chose qu'on veut garder, qu'on veut exposer, qu'on veut montrer sur Instagram. Il faut que ce soit un brouillon, il faut que ce soit un endroit où on se sent libre de faire ce qu'on veut, mais qui soit aussi un refuge, hein, où on peut mettre ses pensées, on peut aller dans l'humour, faire vraiment tout ce qu'on veut dans ce carnet, on le garde pour soi. Petit à petit, dans ces choses qui peuvent paraître juste des brouillons, n'importe quoi, on commence à avoir un fil conducteur, hein. Donc, il y a notre vrai moi qui se dévoile à travers ça, que ce soit dans le développement d'un style artistique, hein, parce qu'après, on trouve des raccourcis hein, pour représenter ce qu'on voit. On trouve des solutions à des problèmes. Donc là, il y a un style qui commence à apparaître, mais il commence à y avoir aussi une voix, hein, une voix propre, peut-être dans ce qui nous intéresse, dans la narration. En tout cas, le carnet, je trouve que c'est la meilleure manière de progresser, évidemment, mais c'est aussi une manière d'apprendre à se connaître soi-même.
Je trouve ça toujours fascinant quand j'ai accès à un carnet d'un artiste. Il y a quelque chose de profondément intime, donc évidemment, il ne faut pas être évasif, mais en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose de magnifique et de puissant, dans le carnet parce que c'est de se donner la permission de se tromper,
Oui.
d'expérimenter, d'essayer des choses et de ne pas penser tout de suite au produit fini, à l'œuvre dans sa finalité, mais vraiment dans sa pulsion. Et
Oui.
tu as publié avec Pascal Gérard un carnet de Montréal. Est-ce que j'ai essayé de le trouver, de mettre la main là-dessus. Je n'ai pas réussi à mettre la main là-dessus.
Oui, mais ça, c'est sur le Myland, donc c'est une petite publication. Qui a été préparé par l'organisme d'histoire du Myland. Donc, il y a
OK.
des dessins qu'on a fait dans nos carnets, qu'on a choisis et qu'on a décidé d'envoyer pour illustrer ce livre qui présente l'histoire du Myland. Il y a certains dessins qu'on avait faits lors d'une réunion de cet organisme. Ils nous avaient engagés, Pascal et moi, pour dessiner les personnes invitées. Pascal, d'ailleurs, c'est bien d'en parler parce que pour ce qui est du carnet, ça a été une de mes grandes inspirations. Lui, il a une pratique du carnet qui est vraiment exemplaire. Ce qui est drôle, c'est que moi, je vais dans tous les styles différents. Dans mon carnet, je prends plein de n'importe quoi qui me tombe sur la main, j'essaie des collages et tout ça. Lui, il reste toujours précis sur cette manière de représenter, mais on voit l'évolution quand même dans son style, la facilité avec laquelle il représente les personnages autour de lui, et puis il dessine tout le temps, tout le temps. C'est assez spécial d'ailleurs lorsqu'on est avec lui. On prend l'habitude rapidement, c'est presque antisocial, on s'assoit, je sais pas, dans un restaurant, dans un bar, et il va juste dessiner tout le temps, mais finalement, c'est de la magie hein, de voir, de regarder tous ces carnets, de regarder tous ces dessins-là.
Ah oui, moi je trouve l'acte du dessin, pour moi, c'est de la magie. Il y a quelque chose de mystique. Je suis allé assister à une conférence. J'avais jamais vu Jimmy en conférence et j'ai vu Jimmy dessiner sur son iPad en direct sur écran et c'est fou. En trois traits, l'action, la perspective, l'émotion, tout est là. C'est magique. Il y a quelque chose pour moi de chamanique là-dedans. Moi qui est si mauvais en dessin, pour moi, c'est hors de portée. Donc, d'assister à ça, c'est pour ça que de voir un artiste travailler dans ses carnets, beaucoup plus qu'en dédicace d'ailleurs. Hein, parce qu'en dédicace, il y a quand même, dans les festivals, dans les salons du livre, il y a quand même un aspect un peu de performance parce qu'on fait plaisir, j'imagine, à la personne qui nous tend l'album et qui veut avoir une belle dédicace, alors que dans le carnet, il n'y a pas cet aspect de la performance-là. Il y a une
Non.
liberté, en fait.
Voilà, c'est ça, on s'affranchit de cette idée de vouloir plaire. Ou alors on essaie de se plaire à soi-même, mais quand il y a le regard de l'autre, ça peut nous freiner. Idéalement, dans le carnet, il faut qu'on soit en mesure d'aller au-delà de ça, de se pousser soi-même, même si le dessin est absolument affreux, on s'en fiche, on continue, on en fait un autre. Je pense que c'est Guy Delisle qui disait, on a toujours un bon dessin en soi, mais il faut en faire 100 mauvais pour le faire sortir. Et c'est un peu ça, faire le carnet, voilà.
Oui, c'est comme chez Colosse, le livre que Jimmy a sur la pratique de la bande dessinée, le titre c'est Vos 50 premières pages seront poches
Ah oui,
ou
voilà.
quelque chose. Ben, alors, mais non, mais c'est ça. Mais en fait, je pense que c'est comme ça dans toutes les disciplines artistiques. C'est pour ça que les acteurs répètent si longtemps au théâtre. Bon, ils répètent pas à la télévision puis au cinéma parce qu'ils n'ont pas le temps. Et c'est pour ça qu'en danse, c'est la même chose. C'est pour ça qu'en musique, c'est la même chose. C'est que pour aller chercher la bonne note, il faut travailler. C'est pas inné.
Oui.
Et donc, Je trouve que c'est une observation qui est très juste, ça, de Guy Delisle. C'est intéressant, hein. Surtout venant de lui. Ah, parce que
Ouais.
Guy Delisle, en plus, c'est un maître du mouvement. Quand on regarde son travail, il vient de l'animation, c'est fou, Guy Delisle. On regarde, on prend une page, je veux dire, c'est vivant, c'est animé. Alors même que ça va à l'encontre de ce que c'est une bande dessinée, hein. Une bande dessinée, c'est des images fixes. Et c'est aux lectrices, à la lecteur, hein, de faire le pont et d'animer tout ça. Mais quand on lit du Guy Delisle, mais pour arriver à ce dessin-là, c'est ça. Il en a fait et c'est ça aussi. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point le travail d'un BDiste ou d'une BDiste, c'est ça, c'est de parfaire son art et de dessiner, de réfléchir, de s'ouvrir, de... T'étais en quelque part un éponge,
Oui, c'est
Michel.
s'ouvrir à des idées, chercher de l'inspiration ailleurs que juste en regardant d'autres bandes dessinées. Évidemment, c'est important de regarder d'autres bandes dessinées, mais de voir où est-ce qu'on pourrait trouver d'autres idées ailleurs. Et dessiner, se pousser, et tout en essayant de garder le plaisir. Parce que si ça commence à devenir quelque chose de forcé, là, le lecteur va le sentir, on est moins... Sinon, on le voit plus comme un chore, je sais pas comment on dirait ça en français,
Ouais, une tâche, une
une
corvée,
tâche, voilà,
ouais.
une corvée exactement, plus qu'une corvée, non. Alors, garder le plaisir de dessiner pour dessiner, sans penser nécessairement à l'autre, mais en même temps en voulant arriver à un résultat qui nous satisfasse nous-mêmes.
Ben, en tout cas, ça, c'est un point commun de toutes tes œuvres, Michel. Ce plaisir-là, il nous contamine. On sent tout le plaisir que tu as à faire ces albums-là et nous, on les reçoit évidemment dans le plaisir. Et donc, ben écoute, je suis impatient de lire ton prochain projet sur Montréal. Est-ce que tu as une approximation? Est-ce que c'est 2025, 2026 la parution? Est-ce que tu as déjà une idée à ce stade-ci?
Alors là, ce mandat que j'ai avec Maggie, il va durer 1 an. Je
OK.
vais travailler sur cet album pendant ce mandat. Après, il faudra finaliser les planches et le faire sortir. Alors, pour l'instant, je n'ai pas vraiment de date, mais si j'arrive en parallèle à terminer la bande dessinée dont je te parlais sur le canoë,
Ouais.
je pense que ça viendrait avant. Parce
Oh.
qu'elle était sur le bord d'être terminée. Alors, ce serait un peu dommage de la mettre complètement de côté pour travailler sur
Ouais.
ce projet de Montréal. Et de toute façon, j'aime bien travailler sur deux projets en même temps. Parfois, ça nous aide quand on a le writer's block,
Ouais.
bon, on va sur l'autre projet, puis ça revient avec cette idée qu'une chose vient nourrir l'autre. Finalement, ce n'est pas comme si on passait d'une chose complètement différente à l'autre. Ça vient. Il y a l'inspiration qui peut venir nourrir chaque étape différente des deux projets.
Alors, je vais terminer cette entrevue un peu comme je l'ai commencé. Mile and 2, 2030, 2035.
Ça viendra éventuellement. Ça viendra éventuellement. Pour l'instant, j'habite encore dans le quartier, alors je suis bien placé pour en faire le portrait.
Eh bien, alors, ben, Michel Hellman, merci beaucoup de m'avoir consacré de ton temps.
Ben
Et
merci à toi pour ces questions et en tout cas c'était super.
je te souhaite encore beaucoup de plaisir et je nous souhaite de te lire très, très rapidement. Merci beaucoup, Michel, et bon vent à toi.
Et merci à toi.
Pour suivre Michel Hellman, rendez-vous au michelhellman.com. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jeandominiqueleduc.ca. À bientôt.